Chapitre 12. Monsieur Knightley devait dîner avec eux, quoique Monsieur Woodhouse ne l'approuva pas, car il lui fâchait que qui que ce fût partageât avec lui le premier jour de l'arrivée de son Isabelle. Mais le bon sens d'Emma, pour tout ce qui était bien, avait décidé la question. Outre les égards qu'on devait aux deux frères, elle ressentit un grand plaisir, par rapport à la circonstance de leur dernière querelle, de lui envoyer elle-même une invitation. Elle espérait qu'ils redeviendraient amis, crut qu'il était temps de faire la paix. Elle n'avait certainement pas eu tort, et lui n'avouerait jamais qu'il n'avait pas eu raison. Il n'y avait pas lieu à faire des concessions, mais il était temps de paraître, au moins, oublier qu'on s'était querellé. Son espérance à renouer avec M. Knightley s'augmenta par une circonstance particulière, c'est que, lorsqu'il entra dans le salon, elle tenait une de ses nièces. C'était la plus jeune, une jolie petite fille de 8 mois qui venait à Hartfield pour la première fois et paraissait très satisfaite de sauter dans les bras de sa tante. Elle avait très bien jugé, car, quoique son regard fût sévère et ses questions laconiques, peu à peu, il commença à parler des enfants comme à son ordinaire et il prit la petite nièce des bras d'Emma avec une familiarité amicale. Emma sentit qu'ils étaient de nouveau amis. La conviction qu'elle en eut lui causa une grande satisfaction et lui donna un peu d'effronterie. Elle ne put s'empêcher de lui dire, tandis qu'il admirait sa nièce, « Qu'il est consolant que nous ayons les mêmes idées sur nos neveux et nos nièces. Quant aux hommes et aux femmes, nous différons quelquefois d'opinion. Mais, à l'égard de ces enfants, nous sommes toujours d'accord. Si vous étiez autant guidé par la nature, dans votre manière de penser sur les hommes et sur les femmes, et aussi peu au pouvoir de la fantaisie et du caprice dans vos communications avec eux, que vous l'êtes pour ceux qui regardent ces enfants, nous serions toujours du même avis. Oh, certainement, nos querelles ne viennent que parce que j'ai tort. Oui, dit-il en riant, il y a une bonne raison pour cela. J'avais 16 ans lorsque vous êtes né. Il y avait alors une grande différence entre nous, répliqua-t-elle. Vous aviez sans doute plus de jugement que moi. Mais croyez-vous qu'un laps de 21 ans n'est pas un peu rapproché le mien du vôtre ? Oui, un peu. Mais pas assez, cependant, pour me donner la chance d'avoir raison lorsque vous ne pensez pas comme moi. J'aurai toujours sur vous l'avantage de 16 ans d'expérience et celui de n'être pas une jolie femme et un enfant gâté. Allons, ma chère Emma, soyons amis et n'en parlons plus. Dites à votre tante, petite Emma, qu'elle doit vous donner un meilleur exemple que de renouveler d'anciens griefs, et que, si alors elle n'avait pas tort, elle l'a maintenant. « C'est très vrai, je l'avoue, s'écria-t-elle. Petite Emma, deviens meilleure que ta tante, sois infiniment plus instruite, et ne t'en fais pas tant à croire. Maintenant, monsieur Knightley, un mot ou deux de plus, et j'ai fini. Quant à l'intention, la vôtre et la mienne étaient certainement bonnes, et je puis dire que, jusqu'à présent, il n'est rien arrivé qui puisse prouver que j'avais tort. Il me reste à savoir que M. Martin n'ait pas violemment souffert d'avoir été trompé dans ses espérances. » « Jamais homme n'a tant souffert, » fut sa réponse. « Ah, j'en suis en vérité bien fâché. Allons, donnez-moi la main. » Ceci venait de se passer avec cordialité lorsque M. Jean Knightley parut. « Et comment vous portez-vous, Georges ? Et vous, Jean ?» Mais avec ce calme anglais qui cachait, sous l'apparence de l'indifférence, le plus sincère attachement, attachement qui, s'il avait été nécessaire, leur aurait fait entreprendre l'impossible pour le service l'un de l'autre. La soirée se passa tranquillement en conversation. M. Woodhouse, ayant refusé de faire la partie pour causer avec sa chère Isabelle, on se sépara en 2 divisions. D'un côté, M. Woodhouse et Isabelle, et M. Knightley de l'autre. Leur conversation n'était pas la même. Emma se mêlait tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Les frères parlèrent de leurs affaires et de leurs plans, mais principalement de ceux de l'aîné, qui étaient plus communicatifs que l'autre. En qualité de magistrat, il consultait Jean sur quelques points de loi ou lui racontait quelques anecdotes. Comme fermier et faisant valoir lui-même sa ferme de Donwell, il avait à faire le détail de ce que chaque champ devait rapporter l'année prochaine, lui donnait toutes les informations locales qui ne pouvaient pas manquer d'intéresser un frère qui avait passé la meilleure partie de sa vie dans la maison paternelle et pour laquelle il avait un très grand attachement. Le projet d'un canal, celui de changer une clôture, d'abattre des arbres et la destination à donner à tous les arpents, soit en blé, navets, etc., furent discutés avec un intérêt que Jean partageait également avec son frère, autant que sa froideur naturelle le permettait. Et si son aîné lui donnait lieu de demander quelques explications, il le faisait avec une espèce de chaleur. Tandis qu'il s'amusait ainsi, M. Woodhouse jouissait de son côté, avec sa fille, de ses heureux regrets et de ses afflictions bénévoles. « Ma très chère Isabelle, dit-il en lui pressant tendrement la main et lui faisant quitter pour un moment les soins que l'amour maternel lui faisait prodiguer à ses enfants, qu'il y a longtemps, très longtemps que vous n'êtes venue ici, que vous devez être fatiguée d'un si long voyage. » Il faut que vous vous couchiez de bonne heure, ma chère. Je vous recommande un peu de gruau avant d'aller au lit. Vous et moi, nous aurons une excellente écuellée de gruau. Ma chère Emma, faites-nous donner à tous une bonne écuellée de gruau. » Emma ne tint aucun compte de cette demande, sachant que les Knightley ne l'aimaient pas plus qu'elle. Elle n'en ordonna que deux. Après avoir un peu parlé de l'efficacité du gruau, et exprimer son étonnement de ce que tout le monde n'en prenait pas tous les soirs, il dit, avec un air qui indiquait qu'il avait fait de longues réflexions, « Vous avez bien mal fait, ma chère, de passer l'automne à Southend au lieu de venir ici. Je n'ai jamais eu bonne opinion de l'air de la mer. » « Monsieur Winfield nous en a fortement recommandé l'air et les bains pour les enfants en général, et particulièrement pour le mal de gorge de la petite Bella, autrement nous n'y aurions pas été. » « Ah, ma chère, Perry doute fort que la mère pût lui faire aucun bien, et quant à moi, je suis convaincue, quoique je ne vous l'ai jamais dit, que la mère ne rend service à personne, et je suis sûre qu'elle a manqué me coûter la vie. » « Allons, allons !» s'écria Edma, qui sentait que le sujet de la conversation était dangereux. « Je vous prie de ne pas parler de la mère, cela m'afflige et me donne de la jalousie, moi qui ne l'ai jamais vue. » Il est défendu de parler de Southend, s'il vous plaît. Ma chère Isabelle, vous ne vous êtes pas encore informée de M. Perry, et cependant, il ne vous a jamais oublié. Oh, le bon M. Perry! Comment se porte-t-il, papa? Assez bien, mais pas tout à fait bien. Il m'a souvent dit qu'il était bilieux, mais qu'il n'avait pas le temps de se soigner, ce qui est horrible. Mais tout le pays en a besoin. Je ne crois pas qu'il existe nulle part un homme qui ait autant de pratique que lui. Mais aussi, il est impossible de trouver un plus habile homme. Et Madame Perry et ses enfants, comment se portent-ils? Grandissent-ils? J'ai beaucoup de considération pour M. Perry. Je me flatte qu'il viendra bientôt ici. Il sera si content de voir mes enfants. J'espère que nous l'aurons demain, car j'ai à lui faire une ou deux questions très importantes à mon sujet. « Et, ma chère, lorsqu'il viendra, vous ferez bien de lui faire examiner la gorge de la petite Bella. »« Oh, mon cher papa, elle va tellement mieux que j'ai fort peu d'inquiétude pour elle. Les bains de mer lui ont fait du bien, où l'on doit sa guérison à une excellente fomentation ordonnée par M. Wingfield et que nous lui appliquons depuis le mois d'août. » Il n'est pas probable, ma chère, que les bains de mer lui aient été utiles, et si j'avais su que les fomentations étaient nécessaires, j'aurais parlé à... Il me paraît que vous avez oublié Madame et Mademoiselle Bates, dit Emma. Je n'ai entendu personne demander de leurs nouvelles. Oh, les bonnes Bates, j'ai honte de moi-même, mais vous m'en parlez dans presque toutes vos lettres. Je me flatte qu'elle se porte bien. La bonne vieille dame Bates! Je lui rendrai visite demain et je mènerai tous mes enfants avec moi. Elles aiment tant à les voir. Et cette excellente demoiselle Bates, quelles bonnes gens, comment se portent-ils tous? Assez bien, ma chère, mais la pauvre madame Bates a eu un terrible rhume il y a un mois. Que j'en suis fâchée! Jamais les rhumes n'ont été si communs que cet automne. Monsieur Wingfield m'a dit qu'il ne les avait jamais vus si fréquents ni si dangereux, excepté lorsqu'il y avait une influenza. Il y a du vrai en cela, ma chère, mais pas au degré dont vous parlez. Perry dit que les rhumes ont régné en général, mais qu'ils n'étaient pas à craindre comme ceux qu'il avait vus dans le mois de novembre. Perry ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maladies dans cette saison. Non, je ne crois pas que M. Wingfield pense qu'il y règne beaucoup de maladies, excepté... Ah, ma chère fille, on est toujours malade à Londres. Personne ne se porte bien à Londres. La chose est impossible. Il est bien malheureux que vous soyez forcé d'y vivre. Si loin et respirer un air si mauvais. Non, en vérité, nous ne respirons pas un mauvais air. La partie que nous habitons est si supérieure aux autres. Il ne faut pas confondre notre situation avec celle des autres quartiers de la ville, mon cher papa. Les environs de Brunswick Square sont très différents de presque tout le reste. Nous avons un si bon air. Je n'habiterai pas volontiers dans aucun autre quartier de la ville, et j'y verrai avec peine mes enfants forcés d'y demeurer. Mais nous avons un si bon air. Monsieur Wingfield dit que le vicinité de Brunswick Square est le seul salubre à cause de l'air qu'on y respire. Ah, ma chère, il ne ressemble point à celui d'Hartfield. Vous vantez le vôtre, mais quand vous demeurez 8 jours à Hartfield, vous êtes tout à fait d'autre créature. Vous ne vous ressemblez plus à vous-même. Maintenant, je dois vous dire que vous ne paraissez pas du tout en bonne santé. Je suis fâchée de vous entendre parler ainsi, mon cher papa. Mais je vous assure qu'excepté ces petits maux de tête nerveux et ces palpitations dont je ne suis exempte nulle part, je me porte très bien. Et si les enfants étaient pâles avant d'aller se coucher, c'était parce qu'ils étaient fatigués du voyage et du plaisir qu'ils avaient de venir ici. Je suis persuadée que vous les trouverez mieux demain. Car je vous assure que M. Wingfield m'a dit qu'à tout prendre, il ne nous avait jamais vus partir en aussi bonne santé. Je me flatte au moins que vous ne penserez pas que M. Knightley se porte mal. » Et elle regarda son mari avec attendrissement. « Coussi, coussi, ma chère, je ne puis vous en faire compliment. Je suis loin de croire que M. John Knightley ait bonne mine. »« Qu'y a-t-il, monsieur? M'avez-vous parlé ?» s'écria M. John Knightley en entendant prononcer son nom. « Je suis bien fâchée, mon cher ami, que mon père trouve que vous n'avez pas bonne mine. » Mais je me flatte que ce n'est qu'un peu de fatigue. J'aurais désiré que vous eussiez voulu, comme je vous en priais, consulter M. Wingfield avant notre départ. « Ma chère Isabelle, s'écria-t-il vivement, je vous prie de ne pas faire attention à ma mine. Contentez-vous de médicamenter, de mitonner vos enfants, ainsi que vous-même, et permettez-moi d'avoir la mine qui me plaît. » « Je n'ai pas bien compris ce que vous disiez à votre frère, s'écria Emma, concernant votre ami Graham et l'intention qu'il avait de faire venir d'Écosse un gérant pour ses nouvelles propriétés. Réussira-t-il? Le vieux préjugé ne l'emportera-t-il pas? » Elle continua de parler de cette manière et avec succès, jusqu'à ce que, forcée de tourner son attention vers son père et sa sœur, elle n'eut rien de pis à entendre que les questions qu'elle faisait sur Mademoiselle Fairfax. Cependant, ce n'était pas une de ses favorites, et néanmoins, elle prenait un grand plaisir à la louer. « Cette douce, cette aimable demoiselle Fairfax, dit Madame Knightley, il y a si longtemps que je ne l'ai vue, excepté quelques instants, par hasard en ville. Quel bonheur pour sa bonne grand-maman et son excellente tante quand elle va les visiter. Je regrette beaucoup pour ma chère Emma qu'elle ne puisse rester que peu de temps à Highbury. » Mais, à présent que leur fille est mariée, je présume que le colonel et Madame Campbell ne peuvent guère la laisser aller. Ce serait une agréable compagne pour Emma. » M. Woodhouse donna son assentiment, mais ajouta « Notre petite Henriette Smith est aussi une très jeune et jolie personne. Vous aimerez Henriette. Emma ne peut avoir de plus aimable compagne qu'Henriette. » « Je suis enchantée d'apprendre cela, mais j'observerai seulement que Jeanne Fairfax, comme tout le monde le sait, est une personne accomplie et d'un mérite supérieur. De plus, elle est exactement de l'âge d'Emma. » On s'étendit avec satisfaction sur ce sujet et on passa à d'autres tout aussi importants, avec le même succès et la même bonne harmonie. Mais la soirée ne se termina pas sans agitation. On remit le gruau sur le tapis. Ce sujet fournit ample matière à la conversation. On loua cet aliment, on fit des commentaires. il fut décidé à l'unanimité qu'il était très sain et convenait à toutes les constitutions. Quelques traits satiriques furent lancés sur les maisons où l'on ne savait pas le préparer. Mais, malheureusement, parmi les méprises qu'Isabelle avait à présenter, la plus récente et la plus grande était celle de sa cuisinière à Southend. On l'avait prise pour la saison et jamais on n'avait pu lui faire comprendre ce qu'on entendait par du gruau uni, propre, clair, mais sans trop. Il arrivait souvent qu'après l'avoir ordonné telle, elle lui en apportait qui n'était pas présentable. Ce sujet était scabreux. « Ah !» dit M. Woodhouse, secouant la tête et regardant sa fille avec des yeux attendris. Cette éjaculation frappant les oreilles d'Emma, elle se dit en elle-même « Ah ! On n'en finira pas sur les funestes conséquences de ce voyage à Southend. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. » Elle se flatta qu'il n'en dirait plus rien et que des réflexions silencieuses suffiraient pour le rappeler à son goût pour son gruau. Cependant, après un moment de silence, il recommença à dire « Je regretterai toujours que vous ayez été à la mer cet automne au lieu de venir ici. » « Mais pourquoi en seriez-vous fâché, papa? Je vous assure que ce voyage a fait beaucoup de bien aux enfants. » Et enfin, s'il était absolument nécessaire d'aller à la mer, vous n'auriez pas dû choisir Southend. Cette place est malsaine. Perry a été surpris d'apprendre que vous vous soyez déterminé pour Southend. Je sais que plusieurs personnes pensent ainsi, mais elles sont dans l'erreur. Nous nous y sommes tous très bien portés et n'avons nullement été incommodés de l'odeur de la boue. Et M. Wingfield assure que c'est se tromper que de croire que cette place soit malsaine. Et certainement, on peut l'en croire, car il a une parfaite connaissance de la nature de l'air. D'ailleurs, son propre frère s'y est souvent rendu avec toute sa famille. Vous auriez dû aller à Cromer, ma chère, si vous étiez forcée d'aller quelque part. Perry a passé une fois toute une semaine à Cromer et il le regarde comme le meilleur endroit pour y prendre des bains de mer. Une belle mer ouverte et un air excellent. De plus, vous auriez pu avoir un logement à un quart de mille de la mer. Vous auriez dû consulter Perry. « Mais papa, il faut aussi considérer la différence du voyage. 100 000 au lieu de 40. »« Ah, ma chère, quand la santé en dépend, comme dit Perry, on ne doit rien considérer. Et lorsqu'on doit voyager, il y a peu de différence entre 100 ou 40 000. Il vaut mieux rester à la maison et toujours demeurer à Londres que d'aller respirer un plus mauvais air. C'est justement ce qu'a dit Perry. Cette mesure lui a paru mauvaise. » Emma avait fait de vains efforts pour arrêter son père, et lorsqu'il eut fini cette sentence, elle ne fut pas surprise d'entendre son beau-frère s'écrier avec vivacité « Monsieur Perry ferait mieux de garder ses opinions pour lui jusqu'à ce qu'on les lui demande. Je voudrais bien savoir de quel droit il se mêle de ce que je fais, de ce que je conduis ma famille sur une partie de la côte plutôt que sur une autre. » Il m'est permis, sans doute, de me servir de mon jugement comme à M. Perry du sien. Je n'ai pas plus besoin de ses conseils que de ses drogues. » Il s'arrêta et, radoucissant son ton, il ajouta avec une froide causticité « Si M. Perry veut m'enseigner le moyen de conduire une femme et 5 enfants à 130 000 de Londres, à aussi bon marché et aussi commodément qu'à 40, je préférerais comme lui Cromer à Southend. » C'est bien dit. « C'est bien dit !» s'écria M. Knightley. « On doit considérer cela. Mais, Jean, je ne crois pas qu'il y ait aucune difficulté à exécuter le projet dont je vous ai parlé de changer le sentier vers Langham en tournant un peu à droite, de manière à ce que la prairie de la maison ne soit pas traversée. Je ne l'entreprendrai pas si cela incommodait le moins du monde les habitants d'Highbury. Mais vous vous souvenez de la ligne que décrit ce sentier ?» Au reste, la meilleure manière de prouver mon assertion est de consulter la carte. Je vous verrai, je l'espère, demain à l'abbaye. Nous l'examinerons ensemble et vous me donnerez votre opinion. » M. Woodhouse fut sensiblement piqué des termes un peu durs dont on s'était servi envers son ami M. Perry, à qui, en effet, sans le savoir, il devait une partie de ses sensations et des expressions dont il se servait. Mais ses filles, par leurs attentions délicates, amortirent graduellement l'impression qu'avait faite le discours de M. Jean Knightley, et la prévoyance de l'aîné, ainsi que la modération du cadet, prévinrent le mal qui pouvait en arriver.